Alors nous comptons sur le Seigneur et sur son esprit qu'il illumine. Hein. Bon, je dis ça parce qu'on voyait ça hier soir avec les gens, qu'il illumine les yeux de notre cœur, que nous comprenions, comme ça a été demandé dans la prière. Alors, je vous invite à lire, à ouvrir déjà votre Bible en 1 Timothée. Nous étudions la première épître de Paul à Timothée. On n'a pas avancé très vite, mais bon, on avance au rythme auquel on peut avancer. Normalement, vous aviez regardé les versets 12 à 17. Mais peut-être un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi le début est important. Cette épître est une épître qu'on appelle une épître pastorale. C'est une épître qui est écrite à quelqu'un, pas à une église. L'apôtre Paul écrit à Timothée. Et il le laisse avec une recommandation qu'on voit au verset 3 ici. Il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de commander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Donc, hein, c'était pour garder l'Église de faux enseignements. Il donne à Timothée des recommandations. Et nous avions considéré un peu ce qu'il avait dit ici. Hein, et puis, surtout la dernière fois, nous avions vu que ce que ces personnes faisaient probablement était de une distorsion dans leur utilisation de la loi de Dieu. Nous avions considéré l'usage légitime de la loi, comme selon ce que l'apôtre Paul dit quand il parle au verset 8, il dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Et c'est ça que nous avions considéré la dernière fois, l'usage légitime de la loi. Et entre autres choses, je crois qu'on avait vu certaines de choses, mais on avait considéré le fait que la loi n'est pas faite pour le juste, comme l'apôtre Paul le dit ici, mais qu'elle est faite pour, il dit ici, les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et donc, il avait considéré le fait que Paul montre que la loi sert à révéler le péché. La loi révèle le péché dans le cœur de l'homme. Mais on n'avait pas vu précisément les différentes choses que l'apôtre Paul décrit ici comme péché. Hein. Et j'aimerais, avant qu'on passe au verset 12, que l'on considère quelques-unes de ces choses, pas toutes. Il y a des choses qu'il regroupe deux par deux. Si vous avez remarqué, il dit verset 9, « Nous savons que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes. » Puis après, il cite nommément des choses, je pense qu'il développe un petit peu ici, « Les parricides, les meurtriers, les débauchés, etc. » Alors, juste quelques-unes de ces choses. Qu'est-ce que les parricides? Est-ce que vous avez peut-être pensé à ça quand vous avez lu ce passage? Qu'est-ce que des parricides? Oui, celui qui tue les parents. Et donc, on pourrait dire que à quel commandement, par exemple, parce qu'on dit souvent que ce que Paul dit ici se rattache au commandement, aux 10 commandements. À quel commandement cela pourrait se rattacher? Tu ne tueras point. Voilà. Hein, donc, au cinquième commandement. On pourrait dire cela aussi, les parricides, mais il parle. Voilà, plus, hein. On peut plus penser au fait d'honorer, parce qu'après il parle des meurtriers, hein. Donc, au fait de, oui, bien sûr, ça englobe aussi cela, mais peut-être le cinquième commandement qui parle plutôt du fait d'honorer son père et sa mère, hein. Et si on lit, par exemple, donc ça c'est dans Exode, hein, si on lit Exode 21, quelqu'un peut lire ça, peut-être Exode 21, verset 15 et puis verset 17. Si quelqu'un a ça, le premier qui l'a, il le lit. Exode 21, verset 15 et 17. Voilà. Voilà. Donc on voit ici la même sanction pour celui qui frappe, qui tue peut-être éventuellement, mais aussi celui qui maudit ses parents. Hein. Donc on voit ici que le commandement qui est considéré, c'est le fait d'honorer ses parents. Et c'est quelque chose que nous devons prendre extrêmement au sérieux parce qu'on vit dans une société où les enfants déshonorent de plus en plus leurs parents. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit même dans l'épître à Timothée que dans les derniers temps, hein, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est un signe de l'impiété et des derniers temps. Et c'est quelque chose qui est important. Il s'est dit que la loi, elle est bonne pour ceux qui sont les parricides. Alors, comment on peut tuer ou être un parricide de différentes manières? On n'est pas obligé de prendre un couteau pour piquer ses parents, mais on peut, dans la manière avec laquelle on parle d'eux, les déshonorer, dans la manière avec laquelle on leur parle, les déshonorer, de l'attitude que l'on a vis-à-vis de nos parents, être les déshonorer. Et on rentre dans cette catégorie-là. C'est quelque chose que Dieu regarde avec le plus grand soin et qu'il condamne et même qu'il punit. Donc c'est important, si nous avons peut-être des parents encore, même quel que soit l'âge que l'on a, on doit toujours honorer ses parents. Et honorer ses parents, ça ne veut pas dire les honorer s'ils sont gentils, s'ils sont bien, s'ils sont comme il faut, etc. Non, c'est un commandement inconditionnel. Et en tant que chrétien, donc si nous disons que nous sommes un enfant de Dieu, nous devons être très très attentifs à cela. Si vous êtes jeunes ici, c'est qu'il y a ceux qui sont jeunes. Je vois des fois, je sais plus où j'étais. Oui, quand j'étais aux États-Unis, il y avait un groupe de Français. Il y avait beaucoup de Français. Bon. Et donc on était sur un bateau et il y avait une jeune fille, elle avait peut-être, je sais pas, 14-15 ans, et sa mère lui parlait et elle a envoyé sa mère balader. Elle voulait pas avec un et on voit ça de plus en plus. Ça, c'est quelque chose, c'est comme un parricide. La Bible dit, attention à ces choses-là, l'enfant doit honorer ses parents. Il est hors de question qu'un enfant de Dieu agisse comme cela. Et puis ensuite, il parle aussi, quoi d'autre ici? Il parle des meurtriers. Donc ce sont ceux qui violent, bien sûr, le commandement qui dit tu ne tueras point. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, et que si quelqu'un se met en colère contre son frère, il dit, vous avez appris qu'il a été dit tu ne tueras point, mais celui qui se met en colère contre son frère, il est passible de la même peine. Autrement dit, il met la colère et puis le meurtre comme des choses qui sont également graves aux yeux de Dieu. Donc c'est pas, bien sûr, parfois il y a des choses que nous ne ferons pas d'une certaine manière, mais d'une autre manière, on peut se mettre vraiment en colère contre ceux qui sont nos frères et nos sœurs, et de manière injustifiée. Et on doit être aussi attentif à cela, c'est grave devant Dieu. Donc il cite cela, il cite les débauchés, les homosexuels. Alors je sais que maintenant, dans notre monde, il faut être, si vous dites quelque chose qui, concernant les homosexuels, vous êtes tout de suite mis à l'index et vous pouvez même être condamné. Si vous êtes maire d'une commune et que vous dites non, je refuse de célébrer l'union de deux personnes du même sexe, ah bien ça passe aux informations et vous êtes dénigré, etc. et traité d'intolérant, tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit ici, il parle de péché, de la débauche et de l'homosexualité ici, et le sens qui est utilisé pour homosexualité, c'est des hommes dans un lit conjugal. C'est ça que le mot en lui-même, quand on le recompose, il veut dire. Donc c'est clair dans la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être clair aussi sur ces choses. On ne doit pas avoir peur d'affirmer, aimer les gens, mais affirmer ce que la Bible dit concernant le péché. Puis il parle aussi des voleurs d'hommes. Alors j'ai voulu souligner ça parce que les voleurs d'hommes, c'est ceux qui kidnappent. Dernièrement, on a entendu qu'il y a un homme à Marseille qui a kidnappé un enfant, qui a été retrouvé dizaines de kilomètres plus loin. Et la Bible est contre ces choses. Et depuis l'Ancien Testament, la Bible parle contre ceux qui kidnappent les hommes et qui les volent. Une fois, je parle avec une jeune qui me dit « Ouais, mais quand on lit la Bible, on a l'impression que Dieu, il n'est pas contre l'esclavage et tout ça, etc. etc. » quand on lit le Deutéronome, et cette chrétienne était un petit peu révoltée parce que des gens lui faisaient remarquer, oui, mais regarde dans la Bible, tu vois, regarde, c'est comme si Dieu, il accepte ça, il y a même des lois, etc., etc. Mais quand on lit correctement l'écriture, si vous voulez, quelqu'un peut lire par exemple Exode 21, verset 16, si vous avez ça, 21, 16, et puis Deutéronome 24, 7, ici. Quelqu'un là?
Celui qui dévouera un homme,
oui, voilà, ça c'est la loi que Dieu donne. Et puis Deutéronome 24:7, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un à autre chose là, ouais.
Si l'offre d'un homme qui est déobéi de cette terre, mais des enfants d'Israël, qui a l'effet son esclave, ou qui
l'est
rendu,
ce voleur sera puni
de mort.
Voilà, ok. Donc là, ça c'est le fond de la pensée de Dieu. On ne traite pas, on ne doit pas traiter
les hommes de n'importe quelle manière. Ça, c'est le fondement. Donc ça, et Paul dit, et c'est tellement à l'époque, il y avait beaucoup de kidnapping d'enfants, etc. Et tout ça, il dit, voilà, ça, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de la loi parce qu'ils se comportent de cette manière-là. Et puis après, il parle aussi des menteurs et des parjures. Ça, on en avait parlé quand on a vu l'épître de Jacques. Mais surtout, je voulais terminer, il dit, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, il cite un certain nombre de choses. Et puis, vous savez comment nous sommes quand un péché que l'on commet n'est pas cité, on se sent un petit peu bien parce qu'on dit, voilà, il cite ça, mais pas ça. Et donc, ça peut peut-être vouloir dire que c'est peut-être... c'est comme quelqu'un disait, je pense que c'est Michael qui nous a fait remarquer ça, quelqu'un qui faisait un commentaire qui disait, quand vous lisez le... qui était ivre, hein, et puis un frère lui dit, dans la Bible, c'est écrit, vous ne vous enivrez pas de vin. Il dit, mais j'ai pas bu du vin, j'ai bu du whisky. Hein? Et c'est un petit peu ça. La Bible dit le vin, mais elle dit pas le whisky. Donc, je peux boire du whisky. Vous voyez, c'est on est un peu comme ça. Donc, Paul dit... les menteurs, les homosexuels, etc. Mais il ajoute, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et le mot saine ici, c'est le mot qui peut donner en français le mot hygiène. Donc tout ce qui est hors de l'hygiène spirituelle, tout ce qui ne convient pas à l'hygiène spirituelle, à la sainteté du croyant, doit être complètement écarté. Et il doit s'en détourner. Puis après, donc, il termine au verset 11 en disant, ici, ce qui n'est pas conforme, bien sûr, conformément plutôt à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Hein, donc l'évangile, chers frères et sœurs, c'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de la gloire de Dieu. Et Paul stipule que ça lui a été confié. Contrairement aux autres faux docteurs qui veulent être docteurs, qui savent même pas de quoi ils parlent, il dit, lui, il a reçu de Dieu. Le dépôt de l'évangile pour qu'il puisse l'annoncer aussi aux autres. Alors, je regarde un peu maintenant les versets 12 à 13. Versets 12 et 17. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, mon Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Très beau texte encore. Je sais que je vous ai posé des questions, mais je vous en pose une autre avant. Quelle est l'atmosphère de ce passage qu'on vient de lire, les quelques versets qu'on vient de lire? Si vous deviez... les qualifier, comment vous les qualifierez ici? Oui? Très bien, la reconnaissance, hein, ça commence comme cela. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Je rends grâce à Dieu. Reconnaissance, et si vous regardez, ça commence avec je rends grâce à Dieu, et ça termine comment? Doxologie, au roi des siècles, immortel. Et ce qu'il dit, on pourrait dire, est enchâssé dans cela. Je rends grâce à Dieu, il explique des choses et puis il termine et il dit au roi, verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, etc. Donc c'est ici une atmosphère de reconnaissance, hein, qui est dans ce texte. Mais quel est le lien avec les versets précédents? Est-ce que vous voyez un lien? Pourquoi est-ce que Paul dit cela, si on regarde un peu ce qu'il dit dans le passage. Est-ce que vous avez trouvé un lien? C'est bien quand on lit quelque chose de voir quel est le lien avec ce qui précède. Est-ce que c'est quelque chose d'autre qu'il est en train de dire? Comment c'est quelque chose d'autre? Ou est-ce que ça a un lien avec la recommandation qu'il est en train de faire à Timothée? Avez-vous trouvé des choses? Oui. Oui, je crois qu'il y a ça, on voit ce lien-là. Hein. Ouais, il n'est pas en train, très bien, hein, il n'est pas en train simplement d'exposer le péché des autres. Il dit la loi, voilà, c'est, etc. Mais il dit, voilà, c'est pas, au contraire, il y a une solution pour se sortir de cela. Et il se donne un propre, on pourrait dire, exemple, hein, de cela. Très bien. Hein. Donc il y a un lien avec ce qu'il dit là. Hein, il va exposer ce que les autres font, mais il ne fait pas qu'exposer ce que les autres font. Il va aussi donner, dire comment est-ce que on peut sortir de cela. Et je crois que le verset 15 peut-être vient bien approfondir cela. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il vient de dire auparavant, la loi, elle est pour les pécheurs, hein, et ceux qui font toutes ces choses. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui font cela, justement. Et donc, il y a de l'espoir et de l'espérance. Très bien. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un a mis sous une autre manière cela? Non, je ne vais pas vous priver de parole si vous aviez trouvé autre chose. Non, ça vous convient. Okay. Donc il y a ce lien avec ces paroles. Alors, comment est-ce que l'apôtre Paul établit maintenant, on a dit que l'atmosphère, c'est une atmosphère de reconnaissance et de louange, mais comment est-ce que l'apôtre Paul va développer sa louange, si on veut, dans les versets suivants. Qu'est-ce que Paul met en évidence? Je crois qu'on peut voir plusieurs choses. Il parle de Dieu, je crois que ça c'est évident dans le passage, et il parle aussi de lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'est-ce qu'il dit concernant Dieu? On peut peut-être juste souligner un peu les différentes choses qu'il dit concernant Dieu. Alors qu'est-ce que vous avez noté? C'est toujours une bonne manière de dire, qu'est-ce que le texte me dit de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il me dit, Dieu, ce texte? Qu'est-ce que vous notez ici? Oui, on voit le mot miséricorde. Alors, si on prend, ce qu'on va faire, hein, on va prendre depuis le verset 12, et puis on va descendre, ou monter, si vous voulez compter les chiffres, et on va voir ce qu'il dit. Il dit, oui, alors, donnez-moi des mots clés peut-être, oui. Fortifié. Donc, il parle du fait que Jésus-Christ l'a fortifié. Dieu l'a fortifié. Lui a donné la force. Ça, c'est une chose qu'on peut voir ici. On peut penser au verset de Philippiens 4:13 qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie, hein. Tout ce que Dieu le fortifie. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit d'autre concernant Dieu? Voilà. Dieu l'a jugé fidèle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant, il dit, dans le ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus a vu la fidélité de Paul et il a dit, lui, il est fidèle, alors je vais l'établir dans le ministère? Est-ce que vous avez compris comme ça? C'est pas toujours évident à saisir, hein? Il a qualifié. Mais là il, oui, je suis d'accord. Mais il dit, il m'a jugé fidèle et en m'établissant dans le ministère. Hein. Donc, est-ce que ça parle de sa fidélité dans le ministère, de la fidélité de Paul? Oui, un petit peu quand même aussi. Hein, ça parle quand même de. Est-ce qu'il a été fidèle dans la mission qui lui était confiée? Oui. Donc, c'est vrai qu'il a été trouvé fidèle, et très fidèle dans ce que Dieu lui a confié. Hein. C'est lui, on lit, ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Hein. Donc, dans le ministère que Dieu lui confie. Bon, si, par 1 Corinthiens 7, 25, il dit ceci, il dit, pour ce qui est des vierges, vous savez, quand il parle des rapports, etc., entre les gens, il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. D'accord? Donc, ce qu'il dit ici, hein, c'est que sa fidélité, je crois, est la conséquence de la miséricorde de Dieu. Hein. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'est jugé fidèle en m'établissant ici dans le ministère. Paul ne trouve pas dans sa fidélité un sujet, je crois, de gloire. Mais il trouve un sujet de gloire dans la confiance que le Seigneur lui a faite. On pourrait dire ici, Dieu, quand il dit Dieu m'a jugé fidèle, et pas dire que je suis fidèle alors il m'a choisi, mais c'est comme si plutôt il dit, voilà, je regarde qui j'étais, ce que j'ai fait, et Dieu m'a quand même confié ces choses. C'est quelque chose qui est... Et il rend grâce à Dieu pour cela, grâce du fait qu'il m'ait jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui auparavant étais un blasphémateur. Donc c'est ça qu'il met en évidence. C'est pas, regardez-moi, je suis fidèle, et donc Dieu m'a choisi, mais il dit, regardez-moi ce que j'étais, comment j'étais un pécheur, comment la grâce de Dieu s'est manifestée envers moi, et Dieu, au point où même Dieu m'a confié quelque chose comme l'annonce de l'évangile. Dieu m'a jugé fidèle, donc c'est pas, il n'attire pas les projecteurs sur lui-même, sa fidélité, mais sur le fait que Dieu l'a jugé digne. Et j'ai trouvé dans un livre une phrase de quelqu'un qui rapporte une phrase de saint Augustin qui dit que Dieu ne choisit aucun digne, mais en choisissant, il rend digne. C'est-à-dire que Dieu ne choisit pas des gens qui sont dignes de quelque chose, mais quand il les choisit, il les rend dignes de faire quelque chose. Et donc même sa fidélité, Paul la place comme quelque chose qui vient de Dieu. Il dit c'est pas de lui-même, ça vient de Dieu. Il dit c'est Dieu qui m'a jugé. Ensuite, on a parlé donc bien sûr de la miséricorde, la miséricorde de Dieu. Hein. Ça c'est quelque chose. Il dit j'ai obtenu miséricorde. Alors encore une fois, ici dans d'autres textes, il n'est pas dit j'ai obtenu miséricorde. Parfois quand on dit j'ai obtenu mon examen, ça veut dire quoi? J'ai travaillé. Et puis, j'ai obtenu le bac. J'espère que Kétia obtiendra le bac à la fin du mois prochain. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose que Paul a fait, puis il a obtenu comme un diplôme. D'autres textes disent, il dit, miséricorde m'a été faite. C'est quelque chose qui est venu à lui et voilà, et que Dieu lui a fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il a obtenu par ses... Alors, il ne faut pas qu'on le comprenne, je le dis, parce qu'il ne faut pas qu'on le comprenne comme ça. Et par deux fois, il le dit, verset 13, je crois, et verset 16. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, et verset 13 aussi, mais j'ai obtenu miséricorde. Ici, très bien. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre concernant Dieu ici? Donc, Dieu lui fait miséricorde, on a dit ça, hein, Dieu le juge digne de confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir encore concernant Dieu ici? Voilà, et puis Dieu manifeste en lui sa grâce surabondante. D'accord? Ici, hein. Et comment il décrit cette grâce? Regardez comment il la décrit. Ça, c'est important, c'est intéressant ici. Je n'avais pas fait attention à ça avant, mais il dit « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec quoi ? La foi et l'amour. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le package, on pourrait dire, de la grâce, il y a la foi et l'amour. Lorsque Paul rend grâce à Dieu, il ne dit pas « Mais j'ai cru en Dieu, il m'a fait grâce et moi j'ai cru en lui. » Non, il dit que Dieu a fait surabonder sa grâce envers moi et dont il m'a donné, et comme ça qu'on doit le comprendre, je crois ici, il m'a donné la foi et l'amour. Ces choses aussi viennent de Dieu. Donc c'est comme si Paul dit que la grâce travaille à produire en nous la foi et l'amour dans le croyant. Autrement dit, la foi et l'amour trouvent leur origine en Christ, comme il dit ici. Hein. Je relis le verset. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Ces choses sont en Jésus-Christ. Et quand Dieu nous fait grâce, il nous donne ces choses. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui suscite en nous la foi et l'amène à perfection. Philippiens 1:29 dit aussi que il vous a été fait la grâce non seulement de croire mais de souffrir pour Christ. Autrement dit, il dit que le fait de croire est une grâce que Dieu nous a faite. Et il y a un texte que j'avais pas pensé à ça avant, mais j'ai été mis au courant de ça aujourd'hui un petit peu en préparant cette étude dans Actes chapitre 18, acte chapitre 18 et au verset, acte chapitre 18 et au verset 27, chapitre 18 et au verset 27, alors je ne sais pas comment c'est traduit dans votre Bible, Il dit ici, et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Mais quand on lit le texte ici dans le texte original, c'est écrit d'une autre manière. Et certaines traductions l'ont rendu un peu plus, je ne sais pas si j'ai noté, bon, je n'ai pas noté de traduction, mais l'ont rendu un peu plus clair. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a la traduction de Martin ici. Tu l'as ça dans ton téléphone, Jérémy. J'ai oublié de le noter ici. Mais la phrase commence avec, enfin, se déroule dans ce sens, c'est ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. Tu l'as, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Voilà. Ceux qui avaient cru par la grâce. Et il y a pas mal de traductions qui le disent comme ça. Et dans le texte original, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Et donc, ce que cela souligne, c'est que la foi vient par la grâce. La foi est comprise dans la grâce. C'est un don que Dieu fait à ceux qu'il réveille. Ça, c'est important ici. L'apôtre Paul le souligne. Et c'est pour ça, je pense, qu'il explose vraiment dans cette reconnaissance, parce que il dit, Dieu m'a fait miséricorde, il m'a fait grâce, et il m'a donné la foi, il m'a donné l'amour, et tout ça en Jésus-Christ. Et de cette manière-là, il rend complètement gloire à Dieu pour toute chose. Et donc, il n'attire pas, ça montre bien ici qu'il n'attire pas du tout les projecteurs sur lui-même, mais vraiment sur ce que Dieu a fait pour lui. Ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir encore concernant Dieu ici, dans ce passage? Rien d'autre? On a fait le tour? Verset 15. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut dire ici? Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. Donc il donne quand même, hein, Jésus-Christ est Dieu, le but de Jésus-Christ quand il est venu dans ce monde. Hein. Il dit que l'évangile est une parole certaine et la mission de Christ était de sauver, hein. Les perdus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il dit, hein, et c'est une parole qu'il faut absolument, dit-il, recevoir parce qu'elle est digne d'être reçue. Voilà, je pense qu'avec ça, on a vu un petit peu ce que l'apôtre Paul dit. On peut maintenant voir la deuxième question, et après on va faire une petite synthèse de tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que Paul met en évidence concernant lui-même, ici, dans ce passage? Alors on reprend, et qu'est-ce qu'il dit concernant lui-même? Ce qui est... Concernant lui-même, concernant lui. Il parle de son passé, déjà. Il parle de son passé. Qu'est-ce qu'il dit de son passé? Il est un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. D'accord? Et il est quand même, on peut dire, quand même, il est quand même étonnant qu'il ne dise pas un peu qu'il était un juif, hébreu, né d'hébreu. Il a dit ça par ailleurs, hein. Mais là, quand il parle de lui-même, vraiment, et en rapport avec Jésus-Christ, ce qu'il met en évidence, c'est ce qu'il était en tant qu'homme pécheur, hein, blasphémateur, persécuteur et un homme violent. C'est pour ça qu'on a lu le passage de Actes 26, tous les versets que vous avez lus. Vous avez vu comment il se décrit. Donc, on va regarder un tout petit peu Actes 8, versets 1 à 3. Acte 8, versets 1 et 3. Donc c'est après la persécution là, de l'église, la persécution de l'église de Jérusalem. Il est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc il était dans l'approbation même des mises à mort. Hein. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, donc c'est Paul, hein, ici pour ceux qui ne savent pas peut-être, mais Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et quand Paul donnera son témoignage plus tard, il le dit, hein. Vous avez déjà lu, je ne vais pas le relire, Actes 26, 9, 11, hein, il dit comment il rentrait, il ravageait, il mettait en prison, etc. Il portait son suffrage aux autres, etc. Donc, il parle de lui en mettant en évidence son péché. Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire ça? Non. C'est même souvent une bonne chose de se rappeler ce que l'on était. Parce qu'on a tendance à oublier hein, ce que l'on était. Surtout quand on est face à quelqu'un d'autre qui pêche. Hein, on a l'impression, voilà, on oublie que nous-mêmes, hein, nous sommes encore des pécheurs et que souvent, nous avons peut-être fait bien pire. Et Paul, il le dit quand il parle je pense à l'Éphésiens, il dit « Souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là. Souvenez-vous-en. » On ne doit pas oublier ce que l'on était. Et en 1 Corinthiens 15, verset 10, il parle de son attitude envers l'Église. Il dit « Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Donc ça, c'est voilà comment l'apôtre Paul parle de son passé. Mais comment il parle de son présent? Qu'est-ce qu'il dit? Ici de lui-même, à vous la parole. J'ai obtenu miséricorde. Miséricorde, on peut dire, m'a été faite. Et pourquoi est-ce qu'il a obtenu miséricorde? Parce qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là aussi? Je ne sais pas si ça vous a surpris quand vous avez lu ça. Paul dit, voilà, j'ai obtenu miséricorde. Parce que, en fait, je péchais, mais j'étais dans l'ignorance. Autrement dit, je ne connaissais pas Jésus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il cherche à diminuer sa responsabilité? Ou est-ce que ça veut dire que son ignorance, c'est la cause que Dieu a trouvée pour lui faire miséricorde? C'est difficile un peu, hein? Oui. Autrement dit, est-ce que pour lui faire grâce, Dieu a trouvé en lui quelque chose qui méritait cette miséricorde? Non. On sait, quand on lit la Bible, que ce n'est pas cela. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul lui-même, dans Romains 9, il cite ce que Dieu a dit à Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, dans Exode, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, je fais grâce à qui je fais grâce. Et l'apôtre Paul rappelle cela dans Romains chapitre 9 hein, et au verset 15. Donc, Paul dit qu'il, ici, il ne sait pas opposé délibérément à Dieu en toute connaissance de cause. C'est vrai. Il combattait avec les chrétiens avec sincérité. Il croyait vraiment qu'ils étaient dans l'erreur et que ce Jésus qu'ils adoraient n'est pas le Messie qui est promis dans l'Ancien Testament. C'était sa conviction profonde. Et je ne crois pas qu'il dise ici, mais Dieu m'a fait miséricorde. Parce que il a regardé ça et puis non, mais c'est comme s'il disait. Certains pensent parfois le mot parce que peut être traduit par aussi et aussi, voyez, hein. J'agissais dans l'ignorance, etc. Et dans l'incrédulité. Mais il ne pose pas son ignorance comme le fondement sur lequel Dieu s'appuie pour lui faire miséricorde. Parce que Dieu agit en vertu de ce qu'il est lui-même. Il fait amour parce qu'il est amour. Il fait grâce parce qu'il est un Dieu de grâce, hein, ici, et il ne regarde pas, bon, un tel il est bien, un tel il n'est pas bien, je lui fais miséricorde parce qu'il est un peu mieux que l'autre. Non, les raisons de la manifestation de la grâce de Dieu se trouvent en Dieu lui-même. Et donc, Paul, lorsqu'il avait participé au meurtre d'Étienne, lorsqu'il a fait arrêter les croyants, il croyait vraiment qu'il était dans la vérité. Donc il affirme simplement qu'il n'avait pas compris que cette voie que les chrétiens suivaient était la voie de la vérité et qu'il ignorait la portée de cela. Il avoue donc son ignorance, je crois ici, à l'égard de Christ, bien qu'il était un docteur lui-même hein, de la loi. Et Actes chapitre 3, verset 17, 1 Corinthiens 2, verset 8, etc., parle de l'ignorance que l'on peut avoir. L'apôtre Pierre, par exemple, quand il parle aux membres du Sanhédrin, il leur dit « Je sais », il dit « Vous avez renié le Christ ». Et vous l'avez fait tuer. Mais il ajoute, je sais que vous avez agi par ignorance. Il dit cela. Et l'apôtre Paul dira en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, que s'ils avaient connu le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, les hommes agissent à l'égard de Christ par l'ignorance. Les gens, ils rejettent par ignorance. C'est-à-dire, une véritable connaissance de Christ, hein, ne pousse pas vraiment à s'en détourner quand on le connaît véritablement, parce que c'est lui qui se fait connaître à nous. Okay. Et donc, il dit ici qu'il a agi par ignorance. C'est toujours un peu par ignorance que l'on agit, hein, concernant les choses de Dieu. Mais en aucun cas, Paul cherche à se disculper. Il ne dit pas « je ne suis pas tout à fait responsable parce que je ne savais pas ». Non, il avoue son péché. D'ailleurs, il dit quoi ?« Je suis le premier de tous les pécheurs ». Regardez au verset 15 comment il dit ça. Il dit « c'est une parole entièrement digne d'être reçue, hein, certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». Il se considère comme le pire et le premier des pécheurs. Donc il n'est surtout pas en train de dire ici « j'étais ignorant, donc j'étais pas ». Vous voyez, on peut donc comprendre tout à fait cela ici. Quels sont, verset 16 ici, est-ce que vous avez autre chose à dire à propos de ça? Peut-être que vous avez autre chose ici.
Concernant l'ignorance, en fait, ouais. il résume bien ce passage, parce qu'il dit dans Actes 17:30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
oui.
annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se
repentir. » D'accord, voici, voilà. Hein.
L'ignorance.
Ouais. Dieu, voilà. Et ouais. Il y a un passage aussi où il parle, je pense que c'est dans Pierre, où il parle de ce temps où Dieu n'a pas puni parce qu'il a exercé sa patience aussi. Oui. Verset, autre chose, peut-être, sur ce que Paul dit de lui-même. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même au verset 16, ici? Alors, je vous avais posé une question concernant ce verset. Je crois qu'on avait dit... ici, en quoi... qu'est-ce qu'il dit, verset 16? En quoi est-ce que il est un exemple pour ceux qui croient ou pour ceux qui croiraient ici? Le verset dit « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Qu'est-ce que vous avez pensé de cela ici?
Il y a un exemple dans le sens qu'il était tellement mauvais,
ouais.
Et Dieu l'a sauvé,
ouais.
Et Dieu l'a transformé.
Mmh.
C'est un exemple, oui. de la puissance de Dieu pour transformer quelqu'un de mauvais en quelqu'un qui le sert.
Oui, d'accord, très bien.
Oui,
mais puis il dit un exemple, comment il dit ça? Pour ceux qui croiraient à la vie éternelle. Donc il est un exemple en tant que tel de ce que Dieu a fait, mais pourquoi un exemple pour ceux qui croiraient? Oui, on pourrait dire ça, voilà. Hein. On pourrait dire un peu quoi, c'est comme si Paul disait, si Dieu a fait cela pour Paul, il peut le faire aussi pour moi. Oui, c'est ça, oui. Ouais, d'accord, tu voulais dire quoi, je n'avais pas compris ça. Très bien, donc tu avais bien répondu. Voilà, c'est-à-dire, hein, il n'y a pas de, en résumé, il n'y a pas de trop grand pécheur. Hein. Il y a des gens qui disent ça des fois, ils disent, moi j'ai trop péché, je ne crois pas que Dieu... puisse me sauver. Et même, ils sont comme ça à l'égard des autres. Ils disent, ah non, si Dieu pardonne à Hitler, c'est pas juste. Il a trop fait. On fait des choses comme cela. Et l'apôtre Paul, en fait, il se met dans cela. Il dit que ce que Dieu a fait, il l'a fait pour moi, pour me donner un exemple, hein, pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important ici à voir. Qu'est-ce que, alors on va regarder ça un petit peu. Qu'est-ce que la longanimité? Si je relis le verset, il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. » C'est quoi la longanimité? Oui, c'est la patience, voilà. L'indulgence, parfois ça peut être constance, peut être traduit aussi par persévérance ou par douceur, hein, par exemple. Quand l'apôtre Paul dit, par exemple, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. » C'est le même mot pour dire longanimité. Mais ici, hein, je vois qu'il parle, il exprime la patience de Dieu, comme l'apôtre Pierre l'exprime, hein, dans 2 Pierre, il dit « Croyez que la patience, c'est le même mot, de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donné, que Dieu use de patience. Et donc, Paul dit que son expérience avec Christ fournit un exemple particulièrement saisissant de la patience de Dieu. Il dit, j'ai obtenu miséricorde, bien sûr, pour que Dieu le sauve, mais il dit, mais Dieu m'a utilisé aussi tel que j'étais pour être un exemple et pour montrer un exemple de sa patience envers le pécheur. Et donc ainsi, Paul dit, si Dieu a fait grâce et miséricorde à un pécheur tel que moi, il peut faire grâce et miséricorde à tous les pécheurs. Ça veut dire qu'il se considérait vraiment comme le plus bas, mais le plus grand des pécheurs, si j'ose dire, dans ce sens-là. Hein. Le plus grand des pécheurs, c'est ce qu'il dit. Hein. Et il dit, si Dieu a pu pardonner à quelqu'un comme moi, eh bien, il peut pardonner à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas lui qui a décidé de dire ça, c'est le Saint-Esprit qui inspire ces textes et qui pose et qui met cela là pour nous. Le Saint-Esprit a voulu que l'exemple, que Paul soit un exemple, un reflet de la puissance de Dieu pour transformer une vie, comme on a dit, et puis aussi laisser l'espoir pour tous les pécheurs qu'ils peuvent venir à Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et les pécheurs tels que l'apôtre Paul, donc des pécheurs aussi tels que nous. Et nous pouvons venir à lui. Un tel homme a été pardonné et il fournit vraiment l'exemple fort de, on pourrait dire, l'étendue de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Alors ça c'est un point. Et puis troisièmement, qu'est-ce que Paul fait ici? Il termine par une verset 17, par une doxologie. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. C'est-à-dire que face à une telle grâce, face à une telle miséricorde, eh bien, il attribue tout à Dieu, la force, la miséricorde, la grâce, la foi, l'amour. Il dit tout ça, ça vient de Dieu. Il part en louange. Si jamais on garde une petite parcelle pour nous de choses, on peut dire oui, voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Mais moi, j'ai dû faire ça hein, quand même, un petit peu. Hein. C'est comme quand il y a quelque chose. On est comme ça, hein, quand quelque chose, une grande œuvre se passe, hein, si quelqu'un a fait une réalisation quelque part, on dit ah, qui a fait ça? On dit ah, oh, c'est un tel. Il dit oui, mais moi, c'est moi qui ai mis ça ici. Hein, c'est moi qui ai porté. Hein, quand on fait si ma femme fait la cuisine et puis les gens disent ah, il était bon ce plat, je dis oui, moi, j'ai découpé les carottes. Hein, et on veut avoir sa petite part de gloire, on est comme cela. Mais Paul ici, il montre que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. De la force, du choix, de la foi, de l'amour, de la miséricorde, de la grâce, toutes ces choses viennent de Dieu. Et il termine dans une explosion de joie et de louange. Et on retrouve la même chose lorsqu'il parle pendant 11 chapitres de la justification par la foi en Jésus-Christ seul. 11 chapitres pour parler de la justification par la foi, et il termine à la fin de ces 11 chapitres de Romains, qu'est-ce qu'il dit ? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est extraordinaire ça, n'est-ce pas? Quand on est conscient de ce que Dieu a fait, mais qu'est-ce qui l'amène à cette explosion de joie? Il y a deux choses, je crois. Est-ce que vous pouvez trouver ces deux choses?
Ce qu'il était,
très bien. Et ce qu'il est. La conscience de ce qu'il était. Ce qui fait souvent que l'on a du mal parfois à adorer Dieu, c'est qu'on oublie qui on était. On oublie de quoi Dieu nous a tirés. Et Paul, il a toujours gardé conscience de ce qu'il était. Un pécheur, le plus grand des pécheurs, qui a obtenu la miséricorde de Dieu. Et ces deux choses le poussent vraiment à adorer Dieu. Alors juste pour résumer un peu tout cela, résumons un peu, hein. Qu'est-ce que Paul dit en substance ? Il peut dire trois choses. Premièrement, c'est que la grâce de Dieu est puissante et suffisante, je l'ai mis comme ça, pour transformer le plus grand des pécheurs et faire d'un persécuteur de l'Église un serviteur de l'Église de Christ. Il montre la puissance vraiment de la grâce de Dieu dans sa vie. Lui qui persécutait maintenant, il sert l'Église de Jésus-Christ en servant Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Deuxièmement, il dit que la grâce est disponible pour tous ceux qui croient. Parce qu'il dit, Dieu a voulu montrer en moi sa longanimité, sa patience avec le pécheur, même un pécheur tel que Paul. Et s'il le fait, eh bien, il montre que la grâce de Dieu est disponible pour tous les pécheurs qui croient. C'est ainsi qu'il faut, je crois, lire le témoignage de Paul. Il dit, regardez la miséricorde qui m'a été faite. Non pas pour dire que regardez simplement la miséricorde qui m'a été faite, mais pour dire la même chose peut vous être accordée aussi si vous croyez. Ce qu'il dit quand il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Et puis troisièmement, je crois qu'il dit aussi que l'évangile de la grâce reçu dans un cœur transforme celui-ci en un véritable adorateur. Celui qui... La connaissance de Dieu, la transformation que Dieu produit en nous, c'est pour faire de nous des adorateurs. C'est pas pour faire des prédicateurs, c'est pas pour faire des évangélistes. C'est pas. Bien sûr, on sert Dieu par cette manière-là. Mais ce que Dieu cherche, avant tout, c'est des adorateurs, des gens qui vont passer l'éternité à l'adorer. Et on voit à chaque fois que Paul est conscient de la grandeur de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a fait, ou dans sa vie, ou dans 11 chapitres, on pourrait dire, de doctrine, il explose en louange. Et la même chose doit être pour chacun d'entre nous. Quand nous considérons ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a aimés, de quel bout du péché il nous a tirés, nos cœurs doivent éclater de louange. Donc l'évangile de la grâce de Dieu reçu dans un cœur transforme celui-ci en un véritable adorateur. Et donc, bien sûr, pour cela, il faut considérer son passé et considérer la grâce de Dieu. Et ces deux choses travaillent ensemble pour produire en nous vraiment cette louange. Quelques mots d'application et je termine. L'évangile, vraiment, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça, on le voit ici, ça c'est un passage de l'apôtre Paul en Épître aux Romains. Mais là, on le voit précisément dans la vie de l'apôtre Paul. Si vous voulez que votre vie soit changée, il faut venir à l'Évangile. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et il est hors de question qu'il échoue dans son plan salvateur. Il sauvera qui il a prévu de sauver. Personne ne sera perdu. Il dit à son père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Aucune de ces brebis ne se perd. Il dit, je connais mes brebis, elles sont dans mes mains et nul ne les ravira de la main de mon père. Et puis, je voudrais dire aussi que ce passage nous montre que les transformations produites par l'évangile sont radicales. On n'a pas lu le témoignage, la conversion de l'apôtre Paul, mais c'est celui qui était un persécuteur de l'Église, maintenant devient un serviteur de l'Église. Quand l'Évangile entre dans une vie, il y a des changements qui sont des changements radicaux. Parfois, les gens disent « Oui, je suis à Christ », mais après, ils traînent avec des situations qui sont des situations de péché pendant longtemps. C'est incompatible. C'est paradoxal. Le chrétien véritable, quand il reçoit Christ dans sa vie, il y a des changements radicaux qui s'opèrent. L'apôtre Paul était en train, sur le chemin de Damas, en train d'aller avec des lettres de créance pour arrêter des chrétiens. Et quelques heures plus tard, il se retrouve en train de prier. C'est ce que Dieu dit à Ananias. Hein. Il lui dit, va voir cet homme. Ananias dit, ah, mais Seigneur, cet homme, tu te rends pas compte, il est venu avec des lettres pour arrêter tes saints, il a fait souffrir tes saints. Et Dieu lui dit, va parce qu'il prie. Il a changé. Et les gens étaient stupéfaits. Ils disent, c'est pas lui qui ravageait l'église. Et maintenant, il défend ce qu'il était en train de persécuter quelque temps auparavant, je sais pas. Et ça, c'est l'évangile qui produit bien sûr cela. Et puis, troisièmement, je voudrais dire, nous ne devons pas compter sur notre sincérité, mais sur la vérité. Nous appuyer sur notre sincérité, mais sur la vérité. Paul était sincère. Hein. Il croyait vraiment quand il persécutait l'Église qu'il faisait ce qui était juste et droit. Il dit, il était zélé, irréprochable à l'égard de la loi. Ici. Mais il n'était pas dans la vérité. On entend des gens qui disent souvent, mais peu importe ce que l'on croit, du moment qu'on est sincère, Dieu y voit la sincérité du cœur. Non, c'est la vérité qui compte. Il faut s'appuyer sur la vérité, pas sur la sincérité de notre cœur. Personne n'est sauvé sur la base de sa sincérité, mais sur la foi dans la vérité révélée dans l'Écriture. Et puis dernièrement, je voudrais dire aussi que nous devons maintenir une juste perception de nous-mêmes et de la grâce de Dieu envers nous, afin de rendre à Dieu toute la gloire qui lui revient. Si on oublie l'une de ces deux choses, on n'en vient pas à glorifier Dieu pour qu'il y ait. Paul maintenait une juste perception de lui-même. Il est capable de dire, voilà comment j'étais, mais voilà ce que Christ a fait. Et il ajoute quelque part, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais partout, quand il s'exprime pour lui-même, il parle de son péché, du fait qu'il était le plus grand des pécheurs. Et même quand il parle de son apostolat, il parle du fait qu'il était le moindre des apôtres. Et écoutez ce qu'il dit en Éphésiens 3, verset 8. Il dit même, Éphésiens 3, verset 8, c'est pas si quelqu'un l'a avant moi, vous pouvez le lire. Hein. Je suis pas très rapide pour tourner les pages. Il dit, à moi, je l'ai avant vous quand même, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. À moi qui suis le moindre de tous les saints, pas simplement le moindre des apôtres, le moindre de tous les saints. Voilà comment, quelle vision il maintenait de lui-même, quelle perception il avait de lui-même. Et puis, quelle perception grande il avait de la grâce de Dieu envers lui. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, ô roi éternel, immortel, à lui sera la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc si nous voulons vraiment glorifier Dieu, il nous faut absolument maintenir une juste perception de nous-mêmes et une juste perception aussi de la grâce de Dieu envers nous. Voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça, le temps est avancé. Et que ces passages nous aident vraiment à être comme l'apôtre Paul, à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité, pour cet exemple que tu as voulu garder pour nous, de ton serviteur. Et je te prie que par ton esprit, tu nous fasses vivre ces choses. Seigneur, que tu nous donnes de nous détourner de nous-mêmes et parfois des pensées élevées que nous avons de nous-mêmes, que nous sachions considérer combien nous sommes des pécheurs et combien nous sommes perdus sans toi. Que nous sachions considérer combien ta grâce envers nous a été grande, combien ta miséricorde envers nous a été grande. Que nous sachions considérer que tout nous vient de toi. Et Seigneur, que tu es la source de toute bénédiction dans notre vie. Seigneur, que ta grâce, la grâce que tu nous accordes pour croire et celle que tu nous accordes pour continuer à marcher en toi par la foi et à vivre en toi. Seigneur, ta grâce se déverse sur nous chaque jour. Que nous soyons conscients de ces choses et donne-nous des cœurs reconnaissants, Seigneur, qui t'exaltent et qui te louent pour qui tu es. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.